Amen. Bonsoir mes frères et sœurs. Alors nous allons continuer notre étude sur l'adversité. Nous allons partir ce soir d'un texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Un texte que nous connaissons fort bien. Le verset 28. Romains, chapitre 8, verset 28. Je vous encourage à noter ces versets et surtout même les versets que nous connaissons par cœur. Vérifiez vraiment si on a compris le contenu de ces versets. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc ce texte commence avec une certitude. Nous savons, pas nous, nous pensons. Alors il y a beaucoup de gens, vous voyez, qui sont capables de citer ce verset, mais est-ce qu'ils peuvent déjà réaliser quels sont les deux premiers mots? Nous savons, parce que le croire un peu, parce que c'est écrit dans la Bible. Donc c'est écrit dans la Bible, un gars qui est vraiment passé par la repentance et par la conversion et par la nouvelle naissance, il sait par intuition que toute la parole est inspirée. C'est à cela qu'on reconnaît quelqu'un qui est vraiment passé par la conversion. Donc il lit un texte, quel qu'il soit, et il dit oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, c'est écrit dans la Bible, donc c'est la vérité. Mais le savoir, c'est-à-dire je le sais, c'est quelque chose que j'ai acquis. Donc, on va le voir ce soir. On a déjà vu certains passages, comme on a parlé de qui ? On a parlé de Joseph. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Joseph ? Tout le temps que Joseph a traversé dans l'adversité, nous avons vu que même si Dieu ne parle pas, il n'empêche qu'il agit. Nous avons vu l'adversité dans la vie de Lazare et comment Dieu est capable de changer une situation. Donc, déjà le peu que nous avons abordé vous a amené à une conclusion, c'est que l'adversité est un outil que Dieu utilise pour nous amener à une croissance spirituelle. J'ai dit un outil, j'ai presque envie de dire l'outil que Dieu a à sa disposition pour nous faire grandir. Toute chose concourt au bien. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que toute chose concourt au bien de tous les croyants? Voilà. Alors, est-ce que tous les croyants aiment Dieu? Parce que c'est ça le problème. Oui ou non? Est-ce que tous les gens qui croient en Dieu sont des disciples du Seigneur? Est-ce que tous les gens qui vont à l'église sont des disciples du Seigneur Jésus? Jésus a dit, celui qui m'aime, il va à l'église? Celui qui m'aime, il garde ma parole. Donc, il y a des croyants qui n'aiment pas Dieu. Même, ils vont à l'église et le fruit, hélas, les désigne comme étant des gens qui n'aiment pas Dieu. On peut aller à l'église, est-ce qu'on est disposé à connaître Dieu? Pourquoi on va à l'église? Est-ce que je vais à l'église pour me mettre Dieu de mon côté, pour me faire croire que je suis un chrétien? Est-ce que, par exemple, l'envie de grandir avec Dieu est importante pour vous? Ou est-ce que vraiment c'est votre dernier souci? Moi, il y a des gens que ça les... Mais ils n'y pensent même pas. La croissance spirituelle, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que c'est important de faire des progrès avec Dieu? Oui? Vraiment important? Bon. Le connaître davantage. Est-ce que vous le connaissez, le Seigneur? Est-ce que vous le connaissez suffisamment? Est-ce que vous pensez qu'on peut le connaître davantage? Ah, je peux vous dire que je crois que la connaissance est progressive. Croyez-moi, comme on a des révélations. Le bien dont Dieu parle, c'est quoi pour nous? Toute chose concourt au bien. Si demain vous donnez la Bible à quelqu'un et il vous dit, oh, tu sais pas, j'ai lu Romains 8, 28, toute chose concourt au bien. Mais c'est quoi le bien? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Ça veut dire, ben, le bien, ben, c'est que Dieu va te bénir matériellement. C'est ça qu'on va dire? Comment? Ça peut être le salut, oui, mais le bien, pour des gens, le bien, c'est que le bien matériel. Il y a des gens, ils sont obsédés par la prospérité. Alors, est-ce que c'est bien la prospérité? Est-ce que c'est bien de réussir matériellement? Mais le bien, c'est quoi? Vous voyez, pour beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il y a les gens qui ne prennent pas le temps de méditer. Vous allez me dire, c'est le rôle des pasteurs d'expliquer, d'accord. Mais pour beaucoup de gens, ils sont en conflit permanent avec Dieu parce qu'ils n'ont pas compris ce à quoi correspond ce fameux bien. Le bien, ça peut être quoi? Est-ce que ça peut être un changement de caractère. Tiens, est-ce qu'au niveau du caractère, on n'a pas besoin de faire des progrès? Non? Certains, je vois que ça a l'air évident. Mais dans le cœur de Dieu, est-ce que le fait que nous fassions des progrès dans notre caractère, là, ça vraiment correspond à un bien? Ben oui. Ou alors acquérir les choses qui nous manquent? Est-ce que vous réalisez que dans certains domaines, vous pouvez être pauvre, manquer de, je sais pas, de compassion? Est-ce qu'on peut manquer de compassion pour les perdus, par exemple? Non? Par exemple, supporter les faibles. Aimer les gens. Est-ce que vous aimez tout le monde? Est-ce que c'est facile d'aimer tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des gens plus difficiles à aimer que d'autres? Franchement, il n'y a pas des gens avec qui vous avez des problèmes? Il n'y a pas des gens qui vous énervent? Il n'y en a pas? Mais voilà le bien. Regardez, on parlait l'autre jour, on discutait tant qu'on est dans les Romains. Regardez au chapitre 15. Parce que le bien, c'est ça. Bien sûr que ça peut être une bénédiction matérielle. On ne peut pas l'exclure. Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas possible. Regardez Romains chapitre 15. Et c'est demandé, c'est ça, c'est pas facile. Dans une église, moi j'aimerais que tous les chrétiens soient forts. Est-ce que ça serait bien dans une église qu'un pasteur, il n'ait que des gens qui soient forts? Est-ce que ça serait bien? Jonathan, est-ce que tu aimerais être dans une église un jour où il n'y a que des forts? Ou que des faibles? Vas-y, réponds, qu'est-ce que tu préfères? Hein, voilà. Romains 15, verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Chapitre 14, verset 1er. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Vous voyez, ça, je prends un exemple parce qu'on ne va pas prendre toute la soirée à ça, c'est sûr. Mais c'est ça le bien. Tiens, j'apprends à aimer des gens qui ne sont peut-être pas très attrayants. Moi, je me souviens, un dimanche, il y avait un gars, un clochard qui est venu, qui s'est assis à côté de moi. Il sentait mauvais, il sentait l'urine. Ça m'a franchement... Et j'avais honte, j'ai dit, Seigneur, donne-moi de la compassion pour les clochards. Et c'est vrai que depuis, je prie souvent pour les clochards. Mais c'est ça le bien. J'ai du mal à aimer certaines personnes. J'ai du mal à supporter... Enfin, c'est pas mon cas, là, mais je veux dire, j'ai du mal à supporter les faibles. Dans une église, c'est pénible d'avoir des gens qui sont toujours faibles. Il y a des gens, ça fait 17 ans qu'ils sont là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, ils sont toujours faibles. Ils ne vont jamais bien. Eh bien, Dieu peut permettre des situations qui vont concourir au fait que je vais apprendre à supporter les faibles. Vous comprenez? C'est ça le bien, etc. Le bien, j'en ai parlé l'autre fois, le bien c'est pas, voilà... Parce qu'il y a beaucoup de gens, ah, j'ai perdu mon boulot, monsieur Gau. Toutes choses concourent au bien. Je gagnais 3000 euros, ben je suis sûr que maintenant je vais en gagner un ou je vais gagner 4000 euros. Vous voyez, pour des gens, mais parce qu'on leur a dit aussi. Parce qu'on leur a dit. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, ça. Mais peut-être j'ai perdu mon emploi. Et pendant le temps où je vais être au chômage, je vais vraiment apprendre à faire confiance à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que je vais rester tout le temps au chômage, mais pendant les 6 mois que je vais rester au chômage, eh bien, je vais apprendre à mettre ma confiance à Dieu. Parce que je touche moins, parce que si, parce que là, je vais faire des expériences avec Dieu. Je vais expérimenter sa fidélité. C'est arrivé plusieurs fois dans l'église, j'ai entendu. Des gens qui m'ont dit, vous savez, j'ai perdu mon boulot, mais pendant cette année de chômage, vraiment, j'ai appris à voir que Dieu était fidèle. Voilà, c'est ça. Les choses qui concourent au bien. Moi, j'ai vu des fois des personnes qui ont perdu leur boulot. Je pense à une infirmière qui a perdu son travail. Et voilà, elle n'est pas devenue chef de service 3 ans après. Elle est devenue infirmière en Afrique dans une mission chrétienne. Est-ce que c'était bien? Et elle a gagné beaucoup moins. Elle était plus aux 35 heures. Hein. Est-ce que c'était bien? Mais pour le monde, est-ce que c'est bien? Non. Mais pour elle, c'était bien, voyez. Et on pourrait multiplier les exemples. Il faut le comprendre, ça. Parce que beaucoup de chrétiens ont perdu la foi parce qu'ils n'ont pas compris ce genre de verset. Et les gens se débattent dès qu'ils sont confrontés à de l'adversité. Qui n'a pas rencontré des problèmes, des difficultés, de l'adversité? Tout le monde. Et si on ne comprend pas ce point de vue, on ne peut pas faire de progrès. C'est pour ça que tant d'églises sont fragiles, tant de chrétiens sont faibles, etc. Alors, est-ce que Dieu s'intéresse quand même à notre bonheur? Parce que là, il ne faut pas non plus basculer. Est-ce que Dieu s'intéresse au bonheur de ses enfants? D'après vous? Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que ça sera le ciel, si on regarde bien l'éternité? Vous y croyez à l'éternité? Qu'est-ce que ça sera l'éternité avec Dieu? Est-ce que ça ne sera pas un lieu de bonheur éternel, de félicité, de grâce, etc.? Oui. De réjouissance, etc. C'est, oui. Dieu s'intéresse à notre bonheur. Mais ici-bas, sur la terre, Dieu a un plan beaucoup plus intelligent qui consisterait à faire que nous ne pensions qu'à notre bonheur, une vie sans problème. Alors, est-ce que parce que... Alors, c'est une question qu'on peut poser. Est-ce qu'une vie sans problème, oui, est-ce que fera que je serai heureux? Est-ce que les gens qui n'ont pas de problème sont les gens les plus heureux de la terre, d'après vous? Une question, c'est une vraie question qui m'est venue à l'esprit. Moi, je ne pense pas parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème qu'on est heureux, qu'on n'est pas heureux, etc. On peut avoir des problèmes et connaître vraiment le bonheur. Et ça vaut la peine d'ailleurs, puisque je vous encourage à le faire souvent, que vous preniez votre concordance et que vous regardiez toutes les fois où le mot bonheur est utilisé dans la Bible. Et vous allez être étonné. J'ai pensé ce matin, par exemple, quand David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, on voit que le bonheur, là, il est lié à la grâce. Ailleurs, il est dit, psaume 2, verset 12, heureux tous ceux qui se confient en toi. Et vous voyez dans la Bible que le bonheur, il est lié à la confiance. Un autre texte, on peut le lire. Dans le psaume 25, c'est important parce que, alors c'est pas, je fais une petite digression là sur le bonheur, pour indiquer quand même que c'est la volonté de Dieu que l'homme soit heureux, mais pas comme le monde le propose. Par exemple, dans le psaume 25, il y a une autre, alors on a vu le bonheur lié à la grâce, le bonheur lié à la confiance, troisièmement, le bonheur lié à quoi? Donc, verset 25, psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Le bonheur lié à la crainte respectueuse de Dieu. Vous voyez, donc le bonheur et la grâce. Le bonheur lié à la foi, à la confiance, le bonheur lié à la crainte de l'Éternel, et un autre psaume, psaume 65, verset 5. C'est important mais moi je vous assure, moi toutes mes prédications, c'est pas compliqué ce que je vous dis. Bon, c'est vrai que je suis habitué, ça va vite, mais c'est avec une concordance. Heureux, psaume 65, verset 5, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Bon, j'ai fait une petite digression, mais là vous voyez qu'il y a le bonheur par rapport à la crainte de Dieu, le bonheur et la grâce, le bonheur et la confiance, et le bonheur au service dans la maison du Seigneur. Est-ce que ça doit être une grâce de servir le Seigneur dans sa maison? Eh oui, ça doit être un véritable bonheur. Donc, la définition du bonheur, pour vous expliquer que ça n'a rien à voir avec ce que le monde présente, dans un dictionnaire biblique, voilà la conception du bonheur. Est un état de bien-être ancré dans l'âme d'un homme. État de bien-être ancré dans l'âme de l'homme. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose pour vous. Mais en tous les cas, ça veut dire une chose, c'est que le bonheur ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas de l'excitation instantanée ou même des plaisirs matériels que nous pouvons avoir. Par contre, c'est vrai que certains biens matériels que nous pouvons acquérir nous procurent du bonheur. Est-ce que c'est vrai aussi? Mais c'est provisoire. Par exemple, il y a un petit dicton qui dit en France, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Soyons honnêtes, hein? Attention. Soyons honnêtes. Parce que Dieu, il regarde notre cœur. Est-ce que l'argent fait le bonheur, oui ou non? Comment? Ouais. Quand même, soyons honnêtes. Hein? Soyons honnêtes. Ça contribue quand même à nous accorder certains bonheurs. Mais c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est heureux. Il y a des gens qui sont riches et qui, je peux vous dire, qui ne savent rien du bonheur. Mais quand même, certains biens matériels nous procurent, ne peuvent nous procurer une partie, un point de plaisir. Enfin, tout ça, c'est une petite digression. Tout ça pour dire le bonheur. En tous les cas, le bonheur que Dieu veut pour nous ne dépend pas de ces choses. Le bonheur dépend de notre maturité spirituelle. spirituelle. On va lire un autre verset, dans Éphésiens au chapitre 4. Pour comprendre l'adversité, il faut comprendre ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie ? Éphésiens chapitre 4. Voilà, parce que les gens ils lisent pas la Bible, ou ils ne méditent pas, ça fait qu'ils ne comprennent pas. Éphésiens chapitre 4, versets 14 et 15. Là, vous avez une indication de ce que Dieu veut. Éphésiens 4, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc qu'est-ce que Dieu veut ? Il veut que l'on grandisse. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà la volonté de Dieu. Je ne vais pas revenir sur les biens matériels, tout ça. Bien sûr, pour un chrétien, son but, c'est le confort, il va avoir du mal dès qu'il va être confronté à l'adversité, c'est évident. Mais si un chrétien comprend que ce que Dieu veut, c'est qu'il grandisse et qu'il professe la vérité, vous avez vu, ce n'est pas confesser. C'est en professant la vérité. Il y a une très grande différence entre professer et confesser. Dire la vérité, c'est bien. Mais la professer, c'est la vivre. Dieu veut que nous vivions la vérité, de grandir. Ne pas grandir spirituellement, ça produit quoi dans une église ? Il y a un pasteur qui avait écrit un livre, je ne me rappelle plus lequel. Il avait eu une vision, il avait demandé à Dieu qu'il lui parle pour que Dieu lui montre quel était l'état de son église. C'est un pasteur qui est connu dans le monde entier. Et une nuit, il avait fait un rêve. Et il avait toute son église, il n'y avait que des bébés avec des biberons. Et c'était les chrétiens de l'église. Tous, c'était des bébés. Tous, toute l'assemblée. Des bébés avec des biberons. Et Dieu l'a montré, la maturité de l'église. Et à partir de là, il s'est tenu devant Dieu et il a prié pour arrêter de faire du babysitting, mais pour amener les chrétiens véritablement dans une maturité spirituelle. Je sais qu'il a écrit tout un livre, je crois que c'est Former des disciples. Donc, ne pas grandir spirituellement, c'est prendre le risque d'abandonner la foi. Des fois, on se dit, mais pourquoi ils ont rétrogradé ? Pourquoi tel frère a rétrogradé ? Alors qu'il avait fait telle et telle expérience, il a été guéri du cancer, il a pleuré le jour de son baptême, il a fait une confession extraordinaire par rapport à la mort de Jésus sur la croix, il a rétrogradé. C'est un des éléments, c'est qu'on n'a pas cherché à grandir spirituellement. Et la responsabilité d'un pasteur, d'ailleurs je vous ai lu que le verset 14 et 15, mais regardez le verset 11. Pourquoi dans une église il y a des ministères ? Dieu a donné, verset 11, vous voyez, les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, etc. Vous voyez, les évangélistes, ce sont les ministères qui amènent les brebis perdues dans le troupeau. Mais le pasteur, c'est celui qui, une fois que la brebis elle est dans le troupeau, il la nourrit. Moi, mon ministère, je suis pasteur, je ne suis pas évangéliste. Même si, est-ce qu'un pasteur doit être évangéliste ? Est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Oui. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Les ministères peuvent se recouper. Mais moi, je sais que mon ministère, c'est de faire du travail pastoral. Donc, mes frères et sœurs, un chrétien, il doit comprendre qu'au-delà de toutes ces bénédictions journalière, il devrait y avoir le désir de grandir spirituel. Et accepter une vie spirituelle sans accepter l'adversité, c'est commencer à accepter un mensonge. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je parlais de professer la vérité. Vous savez, on n'est pas heureux quand on accepte un mensonge. C'est pour ça que les évangélistes, tiens, sans vouloir critiquer certains évangélistes, mais moi j'ai entendu des évangélistes prêcher lorsque je suis dans des églises comme ça, comme auditeur. J'ai entendu, acceptez Jésus-Christ et vous serez heureux. Moi, je dirais, acceptez Jésus-Christ et vous serez sauvés. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si c'est vrai que le fait d'accepter Jésus nous rendra heureux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, vous allez me dire, tu pinailles. Mais non, je ne pinaille pas. On accepte Jésus-Christ pas pour être heureux. On accepte Jésus-Christ pour être sauvé. Après, il y a la joie du salut. C'est évident. Mais voyez, vous allez me dire, et on fait croire aux gens que s'ils se convertissent, ils seront heureux. Bien sûr que moi, je suis heureux. je suis heureux, mais c'est pas le bonheur qui me préoccupe. Je sais très bien que le bonheur est la conséquence de ma communion avec Dieu. Mais je ne cherche pas le bonheur, je cherche la croissance. Alors dès qu'on commence à accepter un mensonge, si le gars il cherche Dieu, s'il va à l'église que pour son plaisir, pour son confort, pour ses pantoufles, vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les pantoufles. C'est sûr que dès qu'il va y avoir un peu d'adversité, ça va être très très mal vécu. Alors dès qu'il y a de l'adversité, oui, je ne comprends pas, et voilà. Et on commence à accuser Dieu, parce qu'après il y a les conséquences, et je ne comprends pas. Et on m'avait dit que si je devenais chrétien, j'aurais jamais de problème. Alors moi, j'ai jamais dit ça, premièrement. C'est ridicule, en plus. Les pasteurs qui ont dit ça, c'est stupide, parce que c'est pas possible, en plus. Mais quand on en est là, on commence à accuser Dieu, et je peux vous dire qu'on est sur une mauvaise pente. Notre cœur se remplit d'amertume, ça s'est pas passé comme je voulais, et l'adversité à la place de l'accepter comme quelque chose d'utile, les gens ils commencent à dire, ouais, je comprends pas, qu'est-ce que Dieu a contre moi? C'est comme ça? Vous l'avez jamais entendu ça? Ouais, je comprends pas. Qu'est-ce que Dieu a contre moi? Il m'est arrivé cette tuile. C'est pas normal alors que j'obéis, etc., etc. Mes frères et sœurs, votre priorité, notre priorité, ça doit pas être le confort. Merci Seigneur pour le confort. Tant mieux si vous avez du confort dans votre maison. Est-ce que c'est bien d'avoir du confort en même temps? Est-ce que c'est bien, par exemple? Peut-être vous avez la clim dans la maison. C'est bien d'avoir la clim? Est-ce que c'est bien le chauffage à l'église? Ou on l'enlève? Est-ce qu'on a besoin du chauffage, de l'aération qui n'a pas été mise? Est-ce qu'on a besoin de la clim l'été? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est bien de l'avoir? Ben oui, il faut être intelligent. Moi j'ai vu des gens, ils étaient tellement, tellement spirituels qu'ils en négligeaient, alors qu'en fin de compte, soyons honnêtes, on apprécie moins l'été quand il fait chaud dehors, que l'église est climatisée. Moi je vous avoue que ça me fait du bien. Vous voyez, etc. Mais notre priorité, ça ne doit pas être le confort. Notre priorité, ça doit être la croissance. Et vous verrez qu'en acceptant l'épreuve, n'importe quelle épreuve, votre paix grandira. Votre foi grandira. Votre confiance grandira. Vous savez, c'est beau quand on voit des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont au Seigneur, maintenant j'ai de l'assurance dans mon cœur. C'est beau ça. Vous savez, moi ça fait 33 ans que je suis pasteur. J'ai été pasteur à Albi, j'ai été pasteur à Groyer, j'ai été pasteur en Polynésie, et je suis pasteur à Toulouse depuis bientôt 18 ans. Donc, il m'arrive régulièrement d'avoir des contacts avec des chrétiens de Tahiti, de Groyer et d'Albi. Et je vois des chrétiens qui n'ont fait aucun centimètre à l'avant. Et je vois des chrétiens, des fois, ça fait 10 ans que je ne les ai pas vus, c'est un bon vraiment. Vous voyez leur progrès, leur croissance. Ils n'avaient pas trop la paix et aujourd'hui ils ont une paix dans leur cœur. Ils avaient confiance, mais un jour ils avaient confiance. Le lendemain, ils n'avaient pas confiance. Des fois c'était un jour confiance et deux jours sans confiance. Et des fois c'était un jour avec la confiance et des fois à trois jours. Bon, je m'arrête. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis là on voit ces gens aujourd'hui, ça fait 10 ans, 15 ans. Ils ont développé une véritable communion avec Dieu, ce qui leur a procuré cette paix. C'est beau d'avoir la paix, vous savez. Il y a rien, c'est un des grands bienfaits d'avoir la paix, non? Pour moi, souvent on me dit, c'est quoi pour vous, Monsieur Gault, le plus important? Moi, franchement, la paix et le pardon. Franchement, d'être pardonné, parce qu'avec toutes les bêtises qu'on a pu faire, de savoir qu'on est pardonné, ça fait pas du bien d'être pardonné, oui. Donc la paix grandit. La preuve de quelqu'un qui accepte l'adversité, c'est que un mois passe, ou deux ans passent, ou cinq ans passent, et vous vous retournez, vous dites, mais dans cette affaire, mais merci Seigneur, merci, merci Seigneur. J'ai appris ça. Oui ou non? Les gens qui acceptent l'adversité, ça se voit vite. Hein? Ah oui, j'ai traversé ça. Ah, mais si vous saviez dans cette affaire, combien j'ai appris la fidélité de Dieu. On le voit vite. Tandis que quelqu'un qui n'a pas accepté l'épreuve, oui, ils sont irrités, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a fait supporter ça, ça a servi à rien. En plus, qu'est-ce que vous dites? Que toute chose concourt au bien, et n'importe quoi. Ils oublient de citer la deuxième partie. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, avec Dieu, il faut être honnête. Oui, moi déjà, mais tout ça concourt pas bien. Je dis, mais oui, vous avez raison. Parce que vous n'aimez pas Dieu. Mais moi, je vous dis que si vous aimez le Seigneur, toutes choses, écoutez bien, concourront à votre bien. C'est important. Lucas disait, en présentant les champs, que Dieu, il peut faire quelque chose immédiatement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu peut enlever une épreuve instantanément? Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu l'a déjà fait? Oui. Chaque épreuve qu'on traverse, Dieu pourrait l'arrêter instantanément. Il l'a déjà eu fait, on voit plein de cas dans la Bible, on ne va pas y venir, mais c'est une évidence. Dieu pourrait arrêter une épreuve de suite, qu'elle dure 3 secondes ou 4 maximum. Mais quand nous acceptons Jésus-Christ, nous ne nous rendons pas compte qu'en vérité, c'est comme l'école. Nous entrons dans l'école. Vous savez comment ça marche à l'école? Il y a le CP, puis il y a le CE1, il y a le CE2, etc. Et des fois, on redouble. Vous avez redoublé quand vous étiez à l'école? Hein? Oui, moi je sais ce que c'est. Plusieurs fois, trois fois, j'ai redoublé. Et comme dans chaque école, il y a des classes qu'on aime et il y a des classes qu'on n'aime pas. Bon, dans l'école du Seigneur, il y a la classe de la bénédiction, mais il y a aussi la classe de l'adversité. Je ne sais pas laquelle vous préférez, mais il y a toutes sortes de classes. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Alors, le verset qu'on utilise souvent, j'aurais pu le prendre en entrée, mais j'ai fait esprit de le prendre que maintenant, c'est dans Jacques au chapitre 1er, ce verset qu'on utilise régulièrement pour parler de l'épreuve. Il faut le prendre avec beaucoup de considération. Épître de Jacques, chapitre 1er. Vous savez, mes frères et sœurs, je vous encourage à méditer la parole. Vous savez, avant d'aller à Tahiti, pendant 6 mois, tous les matins, je lisais ce texte. Tout le matin. Et j'ai compris que Dieu était en train de me préparer. J'étais poussé à lire ce texte. Comme vous voyez, quelqu'un prend un café tous les matins, il aime prendre un café. Moi, j'étais poussé à lire ce texte. Et j'ai fini par comprendre. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, vous pouvez ajouter, mes sœurs, parce qu'on est tous concernés. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, ou l'épreuve, c'est pareil. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. De nouveau, une bénédiction qui est destinée à qui? À ceux qui vont à l'église? Non, à ceux qu'il aime. Et il ne faut pas oublier, parce que ça aussi c'est entré dans le royaume de Dieu, mais à profusion, mais même dans nos églises, les gens ne se rendent pas bien compte, les promesses sont conditionnel. Et on présente, moi tous les jours, je reçois des mails. Vous savez, il y a des gens qui vous envoient des mails, des petits versets, comme quoi, voilà, les promesses, elles sont acquises, c'est comme ça. Non, les promesses, elles sont conditionnelles. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Est-ce que Dieu peut combler quelqu'un de ses bénédictions? Oui, à condition qu'il soit un homme fidèle. Et là, c'est pareil, nous avons une immense promesse, mais elle est soumise à une condition. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Alors, regardons bien, étudions bien. Qu'est-ce qu'il dit? Considérez les épreuves comme un... Vous ne m'aidez pas beaucoup, hein? Comme un sujet de joie. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Franchement... Est-ce que quand vous êtes dans l'épreuve, la première chose que vous avez envie d'entendre, c'est « Réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi, ma sœur. » Franchement, ce n'est pas la première chose qu'on a envie d'entendre, oui ou non?
un chemin? Non. Surtout que ce verset semble s'opposer à un autre qui est juste avant, dans Hébreux au chapitre 12. Vous connaissez ce chapitre, on en reparlera plus tard, dans une autre exhortation, parce que je pense que c'est utile. Mais regardez, dans Hébreux au chapitre 12, il est parlé de l'adversité, du châtiment, des corrections que nous pouvons subir de la part du Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 5. Avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Alors en grec, le mot châtier, ça veut dire corriger pour instruire. C'est toujours pour instruire. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Regardez maintenant le verset 11, qui semble en opposition avec celui qu'on vient de lire dans Jacques. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord... Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, on a l'impression que ça s'oppose. Un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Vous avez vu, ces deux textes semblent quelque part se contredire. Mais on y reviendra. Bon, on voit bien que sur le moment, une épreuve, ça, c'est un sujet de tristesse et non de joie. Mais après, on voit que c'était intentionnel, que Dieu avait quelque chose derrière. Mais quand il dit un sujet de joie, c'est pas par rapport à l'épreuve elle-même, c'est évident. C'est par rapport à ce qu'on va apprendre, par rapport à la croissance, par rapport à la patience. Vous avez vu, on revient dans Jacques, l'épreuve de votre foi produit là, à moins que vous n'ayez pas besoin de faire des progrès dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que nous avons besoin de faire des progrès dans le domaine de la patience? C'est un des fruits, un des grands fruits qui amène une grande bénédiction sur l'homme. D'ailleurs, plus loin, c'est dans Jacques au chapitre... C'est au chapitre 3. Regardez au verset 2. Ouais. Regardez, ça va loin cette affaire. Jacques chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, vous avez vu? C'est un homme. Vous m'aidez pas, hein? Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme. Parfait. Vous vous rendez compte? Donc ça prouve combien Dieu veut que nous apprenions la patience, pas la résignation, en disant Je dis rien, je suis patient, j'ai appris à me taire, je dis rien. Non, je ne parle pas de résignation, je parle d'une vraie patience. Car, regardez bien la suite, verset 4, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc, on voit le rôle extraordinaire de cette vertu qu'est la patience. Quand j'apprends la patience, je fais incontournablement des progrès. Si j'accepte les choses, je ne peux pas faire autrement que de mûrir spirituellement. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se sont détournés de Dieu dans l'adversité, parce qu'ils n'ont pas accepté et apprendre à lui faire confiance. Il y a des gens qui se sont énervés, moi je l'ai entendu, mais si je vous racontais tout ce que j'ai entendu, moi je fous plus que j'ai entendu, je ne mets plus les pieds à l'église, je ne remettrai plus jamais les pieds à l'église, j'aurais dû avoir cet avancement et je ne l'ai pas eu, c'est pas juste. Est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien n'obtienne pas l'avancement qu'il aurait dû? Ou cette femme qui vous dit, moi je ne comprends pas, j'ai prié, ma fille, je fréquentais un inconverti, et j'ai prié, pour pas qu'elle se marie avec un inconverti, et Dieu ne m'a pas exaucé, je suis en colère contre Dieu. Il y a des gens qui sont en colère contre Dieu parce que leur fille s'est mariée avec un inconverti. Dieu nous laisse libre. Est-ce qu'on est libre? Mais oui. Mais non, mais moi j'entends de ces trucs. C'est vrai que ça peut faire de la peine. Moi j'aurais de la peine, hein, si mon fils était marié avec un inconverti. Ça m'aurait fait de la peine, franchement. Ça m'aurait fait de la peine. Ou ma fille. Ce n'est pas pour rien que Jacques ajoute si quelqu'un manque de sagesse. Vous avez juste après, Parce que quand même, qu'on le veuille ou non, l'adversité, c'est compliqué, l'adversité. Là, on en parle, on le fait dans le cadre d'une étude, c'est entre guillemets « soft », c'est facile à comprendre. Mais quand on le traverse, c'est quand même autre chose. Et si Dieu inspire l'apôtre Jacques et il lui dit « si quelqu'un manque de sagesse », parce que c'est bien joli, certaines exhortations, mais moi je crois qu'on peut dire « Seigneur, donne-moi de la sagesse ». Est-ce qu'on peut demander à Dieu de la sagesse, de l'intelligence, du bon sens? Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait? Qui dans la Bible a demandé du bon sens? David. Hein? Accorde-moi du bon sens. Dans l'Église, c'est pas parce qu'il y a des gens, ils sont spirituels des fois, mais moi je m'inquiète. Parce qu'il manque de bon sens. C'est pas incompatible le bon sens et l'intelligence. Oui ou non? Vous savez, un chrétien, vous savez, on appelle ça les TTS. Très, très spirituel. Il y a des gens, ils en sont tellement spirituels qu'on se demande s'ils ont les pieds sur terre. Non, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Car la véritable sagesse, c'est voir les choses comme Dieu les voit. C'est ça la véritable sagesse. Vous pouvez donner une autre définition, mais c'est ça. Voir les choses comme Dieu les voit. Bien sûr que nous, on aimerait tout comprendre. Est-ce que vous aimeriez tout comprendre? Tout expliquer? Est-ce que vous aimeriez tout savoir? Pas tout savoir dans la connaissance, mais au niveau spirituel, tout comprendre. Vous aimeriez? Alors, dites donc. Est-ce que vous aimeriez tout comprendre? Oui ou non? On sait très bien qu'on ne pourra pas. Jésus a dit à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Donc, comme on ne pourra pas tout comprendre, même si on devra faire des progrès, et on en fera, si on accepte l'adversité, on est amené à une conclusion, c'est que on doit faire confiance à Dieu sur parole, croire Dieu sur parole. Oui ou non? Est-ce qu'on peut croire Dieu sur parole? Vous savez, là, on partage, on étudie, c'est presque bon enfant, c'est sérieux, c'est spirituel, c'est joyeux, etc. Mais Dieu y voit comment on répond. Est-ce que vous faites confiance à Dieu sur parole? Il l'a dit, il l'a dit. Vous pouvez le faire, oui. Est-ce que Dieu nous a prouvé son amour? Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils sont dans l'adversité, oui, je ne comprends pas, si Dieu m'aimait. Écoutez, ne remettez jamais en question l'amour de Dieu. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, il nous a vraiment prouvé qu'il nous aimait. Et je pense que vraiment, on se met vraiment dans le rouge quand on commence à remettre en question l'amour du Seigneur. Qu'on dise, écoute-moi, cette épreuve, je ne la comprends pas, ça ne me plaît pas. Après tout, on a le droit d'exprimer. Est-ce qu'on peut exprimer sa peine? Oui, on peut dire au Seigneur, écoute, ça ne me plaît pas du tout ce que je traverse. Mais tant que c'est là, ce n'est pas grave. Seigneur, franchement, ça ne me plaît pas du tout. Mais si vous commencez à remettre en question l'amour de Dieu, laissez-moi vous dire que vous ne vous approchez pas de Dieu. Vous ne faites que vous en éloigner. On ne peut pas remettre en question l'amour de Dieu parce qu'on ne comprend pas une épreuve. Ce n'est pas possible. Donc, comment Jacques termine cette explication? On revient au verset 12. C'est important, mes frères et sœurs. Il commence par une bénédiction. Il termine par une bénédiction. Je le répète, conditionnelle. Alors, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. On le lit différemment. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Est-ce que quelqu'un a l'épreuve dans sa version? Non? Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Que ceux qui traversent l'adversité, qui accepte l'adversité, qui patiente, voyez, heureux l'homme qui supporte patiemment. Vous faites le rapport avec les premiers versets. Le but, c'était d'apprendre la patience. Donc, celui qui est patient, il obtiendra une couronne de vie dans l'autre monde. Il faut y penser à ça. Dieu sait la tristesse qu'on a parfois. Vous savez, dans l'épreuve, c'est pas facile, l'épreuve. Il y a une femme qui m'appelait dernièrement. Elle est restée avec son mari. Ça fait 40 ans qu'elle est mariée. Un mois, elle s'est mariée avec un gars qui a fait semblant d'être chrétien. Elle restait avec lui parce qu'elle a eu à cœur de rester avec lui malgré tout. Ça fait 40 ans qu'il la trompe. Et cette femme, elle a gardé la foi. Franchement, c'est impressionnant quand vous discutez avec elle. Impressionnant. Moi, je suis époustouflé devant le témoignage de cette femme. Et qui a souvent été malade et tout. Mais voyez, elle l'a fait. Là, je vous le résume, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand on travaille, il y a des gens, vous savez, quand vous parlez avec eux, vous vous rendez compte que le parcours, ça n'a pas été facile. Et Dieu sait ce que nous ressentons quand on est dans l'épreuve, les traumatismes, les frustrations, la tristesse, la peine, etc. Et il y a des promesses comme ça. Et Dieu sait ce qu'il a à nous dire. C'est pour ça qu'il faut savoir lire la Bible. Il faut la lire intelligemment. Il voit les sacrifices qu'on peut faire. Quand on patiente, en fin de compte, on se sacrifie, parfois on dit, je préfère rien dire. Oui ou non ? Je préfère me taire. Je ne dirai rien. Je recommanderai mon sort à l'Éternel. Dieu voit les sacrifices que des gens font. Eh bien, Dieu a prévu, on vient de le lire. C'est pour ça que vous ne pouvez pas douter de l'amour de Dieu. Dieu a prévu une récompense spéciale pour ceux qui auront supporté patiemment l'épreuve. Une couronne de... Moi, je ne sais pas ce que c'est cette couronne. Je lui fais confiance, je pense que ça doit être bien. Il y a une couronne de vie qui correspond à une récompense particulière pour tous ceux qui patientent dans l'épreuve. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Les gens, ils ne lisent pas. Moi, je vous dis, je pense que les gens qui vont à Dieu que pour la bénédiction, ils ne méditent pas ces choses. Ils peuvent pas. Moi, il m'a fallu des épreuves pour en arriver à écrire tout ça. Je peux vous le dire. Donc, mes frères et sœurs, patientez. Est-ce que vous patientez ou est-ce que vous êtes en colère? Tiens, on va terminer parce que je vois que l'heure tourne. Il y a une couronne de vie pour ceux qui patientent. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? C'est écrit. Alors, est-ce que vous patientez ou est-ce que vous vous irritez dans l'épreuve ? Il faut donner une réponse. Il faut terminer la réunion. Non ? Ou je continue ? Alors, est-ce que vous patientez ou est-ce que vous vous irritez ? En tous les cas, une chose est sûre. Dieu veut vous faire grandir. Vous avez envie de grandir avec Dieu, de faire des progrès avec Dieu. Vous savez, quand vous allez passer devant Dieu, je ne sais pas, parce qu'il y en a des couronnes, il y en a quatre en vérité. Je ne sais pas comment on va les faire, elles sont superposables, je ne sais rien. Mais ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues. Si Dieu l'a dit, laissez-moi vous dire que c'est vrai. Vous n'avez pas envie, quand vous passerez devant Dieu, d'avoir cette joie que votre vie était utilisée pour faire des progrès. Non ? C'est ça. C'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien. Il fait des progrès. Chaque épreuve, nous devrions l'accepter. Même si on dit, Seigneur, ça ne me plaît pas, Seigneur, je ne suis pas content. Mais je veux grandir. Je veux apprendre. Et nous apprendrons. Et nous grandirons. Et nous serons solides. Vous savez, moi, il y a ma femme, il y a 8 ans, hein. Elle a fait une dépression. Ça lui est tombé dessus comme ça. Elle a fait une dépression. Pourtant, Isabelle, c'est pas... Elle stresse des fois, c'est son petit défaut, mais c'est une femme paisible. Elle a eu une dépression, un burn-out. Et en plus, je n'ai pas pu l'aider, moi. Mais je savais quand elle travaillait. Je lui ai dit, écoute, Isabelle... T'en as besoin. Tu vas apprendre quelque chose. Et aujourd'hui, c'est incroyable le nombre de femmes en particulier qu'elle aide régulièrement, qui l'appellent parce qu'elle a eu appris. Les gens, ils l'apprennent par des séminaires. Ils appellent mon épouse. Et vous savez, des fois, ce qui guérit les gens, écoutez bien. Elle a dit à des gens, écoutez ma sœur, des gens que je ne connais pas. Vous êtes chrétienne, vous vous en sortirez, parce que Dieu vous sortira de l'épreuve. Vous voyez que ce n'est pas un gros cours de psychologie, ça. Ça suffit à guérir des gens. Parce que quand elle le dit, c'est quelque chose qu'elle a vraiment vécu. Vous comprenez ? Et j'ai vu des gens qui ont téléphoné une semaine après, « Madame Hugo, je suis guérie de ma dépression quand vous m'avez dit, vous vous en sortirez. » Vous voyez ? 3-4 mots. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi on traverse. Moi, vous savez, moi, pendant 5 ans et demi, j'étais dans l'épreuve. Et aujourd'hui, moi, je suis à l'aise avec ces choses. Je ne comprenais pas pourquoi je traversais ça. Mais voyez, c'est cette exhortation. Des milliers de gens vont l'écouter.
Et je vais recevoir des phares. Merci, merci, merci. Mais merci au Seigneur qui nous permet de demander de la sagesse. Et voyez, on n'a rien de mieux à faire que de terminer en demandant à Dieu, Seigneur, donne-nous de la sagesse. Moi, je veux apprendre. Je veux grandir. Les bénédictions, de toute façon, vous ne cassez pas la tête, elles suivront. Ce n'est pas la peine de lui demander. Il y a des gens, bénis-moi, 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 bénis-moi. Ils font que ça. Ce n'est même pas la peine. Écoutez-moi, si vous êtes un de ses enfants, il vous bénira. Demandons-lui, Seigneur, fais-moi grandir. Je ne veux pas me trouver devant toi avec un petit bavoir et un biberon et une sucette. Vous avez envie de vous trouver comme ça devant Dieu ? Non, mais il y a des gens, c'est comme ça qu'ils vont se trouver. Des vrais bébés spirituels. Voilà. On termine en priant ? Notre Père, notre Dieu, le peu que nous lisons nous montre bien que ta volonté, c'est notre croissance. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas compris ces choses, où nous n'avons pas eu l'intelligence de demander cette sagesse pour nous permettre de le comprendre. Seigneur, c'est notre prière. Tu nous vois, Seigneur, nous n'avons certainement pas la maturité que nous devrions avoir, mais nous demandons ton aide. Nous savons que tu es notre aide. Alors, Seigneur, aide-nous à développer cette maturité. Donne-nous de la sagesse, Seigneur. Tu la donnes à tous, sans reproche. Alors, quelle grâce de savoir que nous pouvons tous réclamer cette sagesse qui nous permettra de bien réagir toutes les fois que nous traverserons l'adversité. Merci pour la croix et merci pour toutes tes promesses et tout ton enseignement. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.